quand le commerce frivole divertit par ses outils et que ça rigole dans l'opulence du mépris. Quand dans la baraque on s'étend sur les divans, bien loin du cloaque où pullulent les survivants. Dans l'imaginaire qui vit, je me sens tout réjoui. Je rêve un monde qui me ravit. Et je me dis, tout le monde il est beau, imaginons le profit.
Radio Django vous propose désormais une fois par semaine une émission socioculturelle à vocation critique. Une série de lectures d'articles et de commentaires vous seront livrées sous forme de courts billets que vous pourrez écouter dans une formule intégrale au terme de chaque thématique.
Par cette émission, l'équipe rédactionnelle souhaite s'associer aux multiples mouvements qui naissent actuellement un peu partout sur la planète et qui tentent de constituer une résistance critique à l'égard du système d'organisation sociale dominant. Critique qui soit à même de s'opposer au tintamarre médiatique unilatéral que les médias de masse organisent et relayent inlassablement autour de l'économie de marché qui devrait gouverner nos vies. Ainsi, chaque semaine, à propos, portera à votre connaissance des positions et des points de vue alternatifs à la pensée dominante au sujet de différents thèmes liés aux préoccupations sociales actuelles. Vous pourrez ainsi entendre des lectures d'articles issus de différents titres de presse alternative sur lesquels s'appuieront les commentaires de la rédaction, ceux-ci exprimant leur propre point de vue en perspective et en résonance avec ces articles.
Dans ce premier volet, intitulé « Du pouvoir de l'imagination à l'imagination au pouvoir », une série d'articles et de commentaires invite l'auditeur à réfléchir au sujet de cette question de l'imaginaire, de l'évolution et de la transformation du sens de cette dimension depuis sa promotion sociale en tant que force gouvernante dans les années 70-80. La question étant de réfléchir aux dimensions multiples que prend désormais le terme d'imaginaire, utilisé aussi bien en tant que force critique ou transcendante de la réalité, qu'en terme mobilisé pour auréoler l'activité productiviste d'une société présumée humaniste, ou, enfin, en tant que mode de manipulation des opinions par la rhétorique d'un imaginaire censé œuvrer en matière de politique sociale, mais en œuvrant surtout en termes de propagande pour le mode de l'organisation sociale.
Le premier texte dont nous allons vous donner lecture s'intitule « Éloge de la perturbation ». Il s'agit d'un texte d'Evelyne Pieyer, paru dans Manière de voir numéro 148 sous le titre « Artiste domestiqué ou révolté ». Ce texte interroge la fonction de l'artiste au sein de la société humaine et livre une réflexion sur la place qui lui est assignée dans la sphère socioculturelle.
Après la Seconde Guerre mondiale, la capitale de l'art se déplace de Paris à New York. La scène anglaise, elle, végète dans son isolement insulaire, à quelques exceptions près, comme Francis Bacon et David Hockney, puis Lucian Freud ou Frank Auerbach. Tout change au tournant des années 1980. S'ouvrent les chantiers de la Tate Liverpool en 1988 et de la Tate St. Ives en 1993. Monsieur Anthony Dauphet, galeriste fameux et grand collectionneur, fait une annonce fracassante. Nous déclarons que nous sommes dans le monde plutôt qu'à Londres et expose l'avant-garde internationale. La Royal Academy of Arts présente en 1981 A New Spirit in Painting, où l'on voit pour la première fois dans le pays des artistes allemands comme Gerhard Richter ou Georg Baselitz. Mais c'est une génération née dans les années 1960 qui va propulser Londres sur le devant de la scène internationale. Damien Hirst, Sarah Lucas, Gavin Turk, Tracey Emin. Dès leur début, les Young British Artists ont pour principal collectionneur et sponsor le richissime publicitaire Charles Saatchi, parrain du Parti conservateur et de Margaret Thatcher pour les élections de 1979 et les 11 ans de pouvoir qui vont suivre. En 1985, M. Saatchi acquiert une galerie qu'il possède toujours. Nourris aux principes ultra-libéraux de la Dame de Fer, les Young British Artists sont d'audacieux entrepreneurs d'eux-mêmes et montent leurs premières expositions, Freeze, en 1988, sur des docks ou dans des fabriques désaffectées, avec un sens certain de la publicité. Dès 1995-96, ils percent aux États-Unis avec Brilliant, puis Londres, à la Royal Academy of Arts, Berlin et New York accueillent Sensation, une exposition financée par M. Saatchi, Christie's et les marchands des artistes. Un énorme succès vient couronner une stratégie audacieuse servie par un scandale calculé et par le vacarme médiatique. Hearst, qui produit désormais à une échelle quasi industrielle et connaît toutes les martingales du marché, déclarait en 2008, dans le catalogue de la vente de 218 œuvres qu'il avait organisées lui-même chez Sotheby's Europe, sans passer par une galerie, du jamais vu, « Je joue l'argent contre l'art et, en tant qu'artiste, j'espère évidemment que c'est l'art qui gagnera. Mais s'il s'avère que c'est l'argent, alors l'art devra s'en aller. » Produit de cette vente, 111 millions de livres sterling.
Ce premier texte donne à voir la fracture nettement perceptible dans les années 70 et déjà bien amorcée auparavant par l'apparition en force de l'art contemporain, entre un art défini comme bourgeois et la manifestation d'une nouvelle forme d'expression se présentant comme engagé et affranchi des conventions conformistes de l'esthétique. Cette nouvelle forme d'art, descendue dans la rue pour reprendre l'expression de l'époque, n'a enfin rien fait d'autre que d'installer les confortables canapés de la culture qui siégeaient dans les salons mondains pour les déménager dans les friches industrielles de l'époque qui n'attendaient que cette occasion pour se trouver une nouvelle fonction mercantile dans ce nouveau cycle de la modernité et au sein d'un public désormais très élargi par la voie de la démocratisation. A été ainsi proclamée une nouvelle forme d'expression aisément accessible à tous et qui a également ouvert sur ce qu'on a qualifié à l'époque d'art thérapeutique. Il s'agissait en fait d'ouvrir un exutoire à un imaginaire collectif circonscrit aux exigences des structures sociales du marché. Cet art thérapeutique, de fait, a servi de soupape de sécurité pour permettre à la norme sociale dominante du productivisme d'accentuer sa pression sur la société tout en rendant celle-ci moins perceptible par l'artifice de se substituer à l'exercice d'une imagination réelle qui aurait pu, elle, servir à l'amélioration des conditions de vie, rendant ainsi à l'art sa fonction première, à savoir celle d'un art de vivre. Ce substitut a en fait largement contribué à dégrader les conditions de vie de l'époque, circonscrivant ce qui pouvait rester d'une imagination libre et affranchie à la sphère marchande et à sa propagande. Cet exercice a été largement appuyé par les pouvoirs politiques de l'époque sous l'espèce démagogue démocratisation de l'art. Une perspective intéressante à cette politisation de l'imaginaire nous est livrée dans l'article suivant intitulé « Et la classe créative envoûta les démocrates » écrit par Thomas Frank, texte extrait du numéro 149 de Manière de voir sous le générique « Affrontement américain » suggère que l'imagination mise au service de l'argent et de la technologie constitue un redoutable bras de levier pour exercer une force de conditionnement par l'outil politique.
Après avoir financé les campagnes de M. Barack Obama, les industriels de la Silicon Valley soutiennent désormais Mme Hillary Clinton. Plus présentable que la connivence avec Wall Street, la proximité Google, Uber et Amazon n'en est pas moins lourde de conséquences pour les travailleurs pauvres. Dans son discours sur l'état de l'Union de 2011, le président Barack Obama évoquait avec éloquence le fardeau supporté par les travailleurs du pays, ces Américains sans diplôme qui avaient autrefois pu disposer d'un emploi à vie et qui désormais payaient au prix fort la note de la désindustrialisation, vie délabrée, existence en ruine et salaire famélique. Logiquement, à ce stade du discours, on aurait attendu de son auteur qu'il détaille ce qu'il comptait entreprendre pour remédier à pareil désastre, lancer un programme d'emploi aidé par exemple, ou un dispositif contre les délocalisations. Au lieu de quoi, le président expliqua aux travailleurs qu'ils ne pouvaient rien faire pour eux. Alors oui, le monde a changé, la compétition pour l'emploi est une réalité. Le sort qu'on leur avait infligé se résumait à cela, une réalité, c'est-à-dire une chose à laquelle il serait déraisonnable de ne pas se soumettre. Un peu plus tard, dans cette allocution, M. Obama abordait un sujet plus joyeux. La récession était alors techniquement surmontée et le président tenait donc à insister sur le programme économique qui devait marquer la fin de son premier mandat à la Maison-Blanche. On l'aurait parié. L'innovation, voilà ce dont le peuple avait besoin. Le premier pas à franchir pour conquérir l'avenir, annonçait-il, en effet, c'est d'encourager l'innovation américaine. Sur ce point, nul trace chez lui de fatalisme ou de résignation. Il s'agissait de subventionner copieusement les entrepreneurs innovants afin de multiplier les succès.
À ce stade de la lecture, il peut se révéler utile de remonter un peu dans le temps entre les années 70-80. Car c'est à cette époque, suivant directement mai 68, qu'un discours militant au départ s'est très rapidement répandu dans les coulisses de l'économie et du pouvoir. Repris en cœur par la grande majorité populaire, il s'agissait en fait de mettre l'imagination au pouvoir. Quiconque a vécu cette période n'a pas oublié, à moins d'une volonté d'oubli, l'enthousiasme unilatéral provoqué par cette fracassante revendication. C'est elle pourtant, par cette prétendue libération de l'imagination, qui a finalement largement contribué au délitement de l'organisation sociale, déjà dévoyée par un individualisme dominant, lorsqu'elle s'est effectivement installée au pouvoir, flanquée de sa nouvelle élite d'arrivistes culturels et qui se sont empressés d'accélérer le mouvement vers l'ultralibéralisme qui préside actuellement dans la plus grande partie de la planète. Car de l'imagination au pouvoir, parlons-en justement. Observant le monde politique, l'imagination a permis aux campagnes politiques de prendre le caractère festif et arrogant de concours promotionnels à grand spectacle, où l'engagement politique se résume à un plan de carrière soigneusement agencé.
Observant la recherche, que celle-ci soit scientifique ou de toute autre nature, le champ de cette activité a totalement éclipsé le terrain de la recherche de l'amélioration des conditions de vie humaine au profit d'une quincaillerie de bibelots technologiques et d'émotions tapageuses. Ici encore, l'imagination a étendu son emprise et il est devenu subitement plus important de faire preuve de beaucoup d'imagination pour inventer sans cesse de nouvelles productions plutôt que d'intelligence à savoir discerner le vrai du faux, l'inutile de l'utile, en vue de cadrer les débordements d'une production industrielle déjà largement excessive et prioritairement dévolue aux intérêts du capital. Observant la créativité en elle-même maintenant, force est d'admettre que celle-ci se trouve de plus en plus circonscrite à la sphère marchande et contrainte par l'obligation de l'innovation, de la nouveauté en somme, à une répétition continue de modes ressuscités et revisités et qui se succèdent au gré des exigences de visibilité imposées par les lois du marché. Cette accélération empêchant, à dessein sans doute, tout approfondissement digne de ce nom des productions culturelles courantes. Cette petite parenthèse refermée, revenons à notre texte.
La place naguère occupée dans l'imaginaire démocrate par la finance est ainsi peu à peu revenue à la Silicon Valley. Une autre industrie créative, dont les milliards de dollars de profits n'aspiraient qu'à arroser les campagnes électorales. Des changements dans l'entourage du chef de l'État ont accompagné cette réorientation. En 2014, M. David Plouffe, architecte de l'éblouissante première campagne présidentielle de M. Obama, mettait ses talents de magicien politique au service de la société Uber. La même année, le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Jay Carney, quittait son poste pour rejoindre la chaîne Cable News Network, CNN, avant d'entamer une florissante carrière chez Amazon, qui le nomma vice-président chargé des relations avec les médias et les milieux politiques. Pendant ce temps, à Washington, le président crée une unité fédérale pour optimiser la présence du gouvernement sur Internet grâce aux techniques et aux mercenaires de la Silicon Valley. Une initiative aussitôt présentée comme la start-up cachée d'Obama par des journalistes spécialisés dans les nouvelles technologies. La proximité de l'administration américaine avec la Silicon Valley n'a jamais soulevé de polémique comparable, même de loin, à celle déclenchée par ses connivences antérieures avec Wall Street. Comme si les mastodontes des nouvelles technologies étaient de dévoués serviteurs de la démocratie, quoi qu'ils puissent faire en réalité. Comme si une aura d'insouciance juvénile nimbait en permanence les interactions entre la Maison-Blanche et les maîtres d'Internet. Aujourd'hui, la prospérité inouïe de la Silicon Valley offre la démonstration ultime du mérite de la classe libérale progressiste. La société post-industrielle a su mettre en valeur les plus instruits, les créateurs, les ingénieurs et les scientifiques, elle les a couverts de gratifications économiques qui dépassent l'entendement. L'histoire a rendu son verdict en élevant le secteur des nouvelles technologies très au-dessus de tous les autres et avec lui, les démocrates positionnés depuis belle lurette dans le camp des gagnants du monde moderne. Quand ils chantent les louanges de ce secteur, arrive fatalement le moment où ils se réfèrent à Google. Dans L'audace d'espérer, paru en 2006, M. Obama raconte avec enthousiasme son pèlerinage au siège de la compagnie lorsqu'il était sénateur. Une fois président, il a continué de citer Google dans la moitié de ses discours sur l'état de l'Union. Les employés de l'entreprise se sont hissés sur le podium des trois donateurs les plus généreux de sa campagne de 2012. Et M. Eric Schmidt, ancien président directeur général et actuel président du conseil de surveillance de Google, se taille une place de choix dans les annales du social law libéralisme moderne. Il a par exemple siégé au Transition Economic Advisory Board, le TEB, du président et paradé à la tribune avec lui et ses principaux conseillers économiques 3 jours après la victoire électorale de 2008. Durant la campagne de 2012, c'est encore lui qui a conseillé le candidat démocrate sur sa stratégie relative aux données de masse. Et qui a-t-on retrouvé en 2015 à la tête d'une start-up de technologie politique, conçue pour fournir à la candidate Hillary Clinton le fin du fin en matière de ciblage des électeurs? Monsieur Schmidt, bien entendu, le 100e homme le plus riche du monde selon le classement 2016 de Forbes, est le milliardaire préféré du centre-gauche américain. Invité en 2014 au festival des médias Interactive South by Southwest, M. Schmidt s'est offert le luxe de déplorer les inégalités abyssales qui se creusent dans les villes comme San Francisco, où le coût de la vie dépasse de plus en plus les moyens de la majorité de la population. Sans surprise, la solution qu'il a préconisée ne consistait pas à réduire les inégalités, mais à créer plus de start-up à croissance rapide, l'innovation étant le remède exclusif à tous les maux. Chacun, a-t-il martelé, doit s'engager en faveur de plus d'éducation, plus d'immigration, plus de formation de capital, plus d'espace créatif, plus d'espace autorisé par la régulation à être dérégulé afin que les startups puissent effectivement s'épanouir en leur sein et que nous puissions nous en sortir. Quant à M. Plouf, le mythique ex-directeur de la campagne de M. Obama, il se consacre désormais à vendre l'application Uber de la même façon qu'il vendait le champion démocrate comme une solution à la récession.
Ainsi se termine ce premier texte et la rédaction vous livre le commentaire suivant. Au terme de cette lecture et de ce qui est dit, force est de constater que, concernant la question de l'imagination, celles-ci ne sont pas remplies de fonctions très émancipatrices de la condition humaine. Outre que celle-ci crée et met en place des structures qui asservissent l'être humain de façon encore plus aliénante et permanente, son discours de présentation ne fait, de plus, l'objet d'aucune précision quant à l'aspect délétère et antisocial que ces nouvelles structures revêtent. Le discours permanent de l'innovation, imagination donc, n'est là qu'en tant que flagornerie destinée à susciter l'envie chez chacun d'être en mesure de s'identifier à cette glorieuse capacité d'imaginer de la nouveauté sans réfléchir en aucune manière aux conséquences que ce flux incessant d'innovation génère en termes de dégradation des conditions de vie.
Ainsi se termine ce premier billet. Rendez-vous la semaine prochaine pour la lecture de L'éveil des années 80. Et c'est sur une pièce de Paco de Lucía tirée de Antologia.